Exemple typique, lorsqu'on passe près d'une maison, lorsqu'on est au niveau de certains murs, ça ne passe pas, il n'y a pas de signal, on passe à côté d'une ouverture, et là d'un seul coup... Et c'est là où on se rend compte clairement la variabilité des champs électromagnétiques dans l'espace.
Au début, tu crois que tu es un peu fou quand même. Hein. Tu dis, c'est extrêmement difficile de dire aux gens qui t'entourent, je sens les lignes électriques. Quand ça empire et que ça passe pas, il arrive un jour où tu te dis, je suis obligé de le dire parce que je peux plus vivre comme ça. Il faut que ça va induire des choses, ça va induire qu'il faut changer les ampoules, qu'il faut plus mettre les haut-parleurs aussi proches du sofa parce que tu les supportes pas, qu'il faut plus allumer la télé parce que c'était pas un écran plat, c'était un tube cathodique et que tu portais plus la télé mais que tu n'osais pas le dire. C'est dur de dire ça. C'est qu'une fois que je l'ai dit à ma compagne. Eh bien, ma compagne et moi, on a mis encore quelques mois avant de le dire à d'autres personnes. T'as la pression, tu sais très bien que tu vas être pris pour un fou.
Oui, on peut dater à janvier 2009, en fait, quand elle est tombée malade. Donc ça a été assez brutal, je veux dire, en 2 semaines, elle a dû quitter son travail. 3e semaine, son logement. Moi, elle m'a téléphoné à l'époque... Elle ne savait plus quoi faire. Il y avait le père de ma sœur qui la soutenait, qui me téléphonait. Il ne savait plus quoi faire. Ma mère errait dans la rue. Sur le coup, ben moi, la seule information que j'avais, c'est qu'il fallait se protéger avec du métal, par exemple dans une voiture parce que ça fait semi-cage de Faraday, ou se mettre de l'aluminium sur la tête pour protéger la boîte crânienne. Mais bon, après, on a vu après coup que ce n'était pas si efficace et que ça chargeait en électricité. Donc moi j'ai dit apparemment faut s'éloigner au maximum des antennes déjà, c'est sûr. Aller dormir dans la voiture dans un coin de campagne quoi, je lui ai dit c'est ça, faut s'éloigner des sources.
Les premiers symptômes en fait ça a été les petits radiateurs électriques d'appoint que je supportais plus à côté de moi. Et je pensais en fait que c'était simplement la chaleur qui me gênait, quoi. Chaleur dans les jambes, voilà. Je me sentais pas bien, je me disais bon, voilà, c'est la chaleur du radiateur qui me gêne. Et ça a duré un hiver ou deux. Et après, je m'en suis vraiment aperçu quand je travaillais sur l'ordinateur. Je brûlais, ça me brûlait les bras, ça me brûlait le visage. Et il suffisait de t'en éloigner, ça me brûlait plus. J'étais pas bien. Puis après, tu as des troubles, tu n'arrives plus à te concentrer. Tu perds le fil de ce que tu fais. Enfin bon, t'es pas bien. Mais bon, ça, c'est tout à fait le genre de choses pour lesquelles je me disais, c'est normal. L'ordinateur te fatigue. Donc, c'est pas ça qui m'a fait percuter. J'ai percuté le jour où j'ai senti les fils électriques. Puis ben, après, ça empire. Après, tu te mets à sentir les téléphones portables allumés. Après, les téléphones portables en veille. Et puis après, un peu plus.
Et il y a des choses mystérieuses dans l'électrosensibilité. C'est-à-dire quand on prend d'une manière objective, on peut dire qu'on est sensible aux fréquences. Par exemple, le courant alternatif 50 Hz, on peut être sensible aux fréquences. Après, quand on entend des personnes qui sont sensibles à une batterie de voiture, par exemple, qui est un courant continu, soit on ne les croit pas, mais moi je ne peux pas ne pas les croire parce que je vis l'expérience qu'elles vivent, elles m'en font part, et voilà, pour moi il y a une évidence... Je suis complètement tranquille par rapport à ça. C'est vrai, et c'est pas une affaire psychique, c'est pas une affaire de fabrication mentale, c'est vraiment corporel, qui a une espèce de répulsion du corps, je crois qu'on peut le formuler comme ça, une répulsion du corps pour tout ce qui est électrique, parce que ça va effectivement sur des détails auxquels nous, on penserait même pas, mais qu'elles sentent immédiatement.
On sait maintenant qu'en campagne, il y a des endroits qui sont très exposés, mais la solution, c'est quand même déjà s'éloigner de la ville. Là, il y a la plus grande concentration de technologies sans fil. Quoi. Après, elle a senti elle-même qu'il fallait se protéger donc, dans la voiture, les caves aussi. Elle sentait moins d'émissions. Donc, on a fait le voyage pour Paris, donc depuis Nice. Et le voyage l'a complètement fragilisée. Et là, comme elle s'est extrêmement sensibilisée, on ne savait plus où la mettre. Quoi. C'est-à-dire que dans la cave de mes grands-parents, ça n'allait pas. On a essayé des caveaux à Dijon, dans des caveaux de bar, Et là non plus, ça allait pas, quoi. Sortaient les portables des gens dans le bar du dessus. On a essayé de la mettre dans un parking souterrain, mais apparemment, il y avait de la Wi-Fi dans le parking. Du coup, on a eu l'idée d'une grotte.
De 1m20, 1m40, les plus grands.
Les stalagmites. Non, les stalactites.
Anne est arrivée ici avec Laure, simplement à partir d'une photo dans une rencontre d'électrosensibles. Donc, elle a vu qu'il y avait une grotte, elle cherchait une grotte. Donc, elle est venue pour 15 jours. Et puis, petit à petit, on a vu cette grotte s'habiter. Et donc, on a construit un premier plancher au fond de la grotte, parce que quand c'était humide, c'était complètement argileux, c'était de la gadoue. Hein. Et puis, il y a un lieu qui a commencé à exister dans cette grotte, où moi j'avais révisé mon bac, puis progressivement, on se rend compte qu'on redécouvre qu'est-ce que c'est que l'acte d'habiter, comment on progresse... de manière complètement spontanée, c'est-à-dire sans une réflexion, parce qu'on ne sait pas du tout à long terme comment on va pouvoir faire. Donc on est au coup par coup, un peu comme Anne est dans sa vie, on est au coup par coup dans la grotte et on avance comme ça.
Tu vois, je me souviens, là. Ici, alors la nuit, tu te réveilles, comme on n'a pas de lampe électrique, enfin, parce qu'on ne supporte pas les lampes. Donc on doit, tu vois, moi j'arrive par là, pieds nus, je tape dans la terre, donc je sais qu'il faut que je revienne sur le plancher. Après je marche tout doucement et je fais comme ça, pour pas me cogner, et hop, dès que je trouve le banc, je vais le long du banc, et je sais qu'il y a le soin. Tu vois.
Des huiles, voilà, des boîtes de macro, et là c'est les autres zones. Encore quelques minutes. Il y a encore des vivres à l'une de nous. Voilà. Ce qui est devenu cette passerelle. Et tu vois, là, je rêve d'un plancher jusqu'ici.
Tu vas avoir froid aux pieds.
Non, n'enlève pas tes chaussures.
Non, aussi. N'enlève pas tes chaussures. Tu auras vraiment très froid aux pieds.
C'est vrai, hein. Comme ça se sent, hein, quand même, depuis qu'on les a.
Ouais. D'ailleurs, les gens qui peuvent nous apporter des cartons sont les bienvenus.
Elle fait sa pub.
Parce qu'on voudrait en mettre... sur tout le sol, sur tout le plancher, pour isoler un petit peu.
Ouais. Puis sur les côtés.
Et sur les côtés aussi.
T'as vu là mon beau panneau d'affichage ? J'ai déjà mis une carte postale qu'on m'a envoyée. Puis si jamais t'as trop froid, tu peux regarder le poêle qui est là. J'ai un poêle allumé. M'en fous.
Des fois la grotte, elle chuchote. Ça, j'ai comme des chuchotements. C'est assez curieux. Et en hiver, à l'entrée de la grotte, il y a des glaçons, des grands glaçons, qui font comme des grandes dents. Et l'entrée de la grotte, c'est comme une grande bouche.
Là, comme il fait beau, on va en profiter, on va aller voir une petite maison qui est isolée dans un fond de vallée, à côté d'un village qui s'appelle Le Désert. C'est dans une petite vallée des Écrins. Et en fait, je ne me souviens plus, je la connais, j'ai déjà randonné là-bas. Je ne me souviens pas si elle a une cheminée. Et donc, on va aller la voir, on va voir si elle est viable, si l'endroit est plutôt propre. Et si jamais ça le fait, après, il suffit d'aller de trouver le propriétaire et de voir. Alors là, c'est déjà plus compliqué s'il va bien vouloir nous la louer pour cet hiver ou pas. Là, t'es à 1300. Et tout autour, t'as des 2000, 2007, 3000. Donc c'est plutôt sympa. Moi, là, tu vois que t'es tout petit. Fait du bien. Ça te remet à juste hauteur. Bonjour.
Vous êtes ici?
Oui.
Est-ce que vous savez à qui appartient? Quand on fait là, quand on part dans cette vallée-là, on fait une heure de marche et il y a une petite maison en plein au fond de la vallée.
Sur la droite?
Ouais, elle doit être à gauche du sentier.
Ça fait un peu des anciens terrains, des anciens champs. Il faut traverser ouais. L'eau et elle est juste...
Bah, disons qu'elle est, elle habitait l'été, mais je ne sais pas si elle est habitable l'hiver. Elle est sur le, donc, dans la vallée qui mène au refuge après à...
Pont-sur-Bas ?
Ouais.
Donc c'est la dernière maison, là.
Mais oh, elle est loin, elle est à une heure de marche hein, d'ici. Une petite maison, j'ai déjà vu habiter l'été.
C'est la cabane du berger ?
Ouais, peut-être.
Ouais, ouais. C'est une heure et demie.
Elle est une heure et demie ? Ouais. Elle appartient à qui, cette petite maison ?
C'est à la commune.
C'est à la commune ? Ouais. Il y a une cheminée, cette petite
ouais,
maison ?
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce qu'elle a déjà été habitée l'hiver ?
Non, jamais. Non, c'est les cabanes pour les estivants, pour les bergers.
D'accord.
Ils font que la saison estivale dedans. Donc ça peut à peu près de début juin jusqu'à fin septembre.
Là, en cette saison, elle est accessible, de toute façon, il n'y a pas de neige.
Ah ouais, là, vous pouvez y aller tranquille. Ça doit être limite neige ouais. Quand même.
Bon, on verra.
Ça doit être limite neige.
Merci.
Bonne journée.
Vous aussi. Terre d'hiver, tout ça. Hein. Très bon. Celle-ci, elle est pure, il n'y a pas de problème.
J'ai cru que c'était une maison de rocher là-bas.
Ben, je sais pas, c'est vert, il faudrait des jumelles. Ça va, elle est grosse pour être une maison de montagne. On peut s'en rapprocher. Moi d'ici, j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais tu voudrais louer cette petite cabane de berger. On te laissera jamais la louer. Au jour d'aujourd'hui, on ne permet pas de vivre ce genre de choses un peu extrêmes. Donc la cabane, si tu vas, tu rentres, si elle n'est pas fermée à clé, tu t'installes, peut-être qu'on te laissera y passer l'hiver, mais tu n'en auras jamais l'autorisation. C'est simple hein, de vivre en montagne. Il suffit juste d'avoir quand même 4 murs, et à toi. Ouais, c'est un rocher. Une luge à tirer pour porter la nourriture, et puis voilà. Mais bon, tu passes un certain temps à côté des flammes de ta cheminée. Tu lis, tu vas randonner la journée, t'as bien froid quand tu rentres. C'est plutôt sain. Ouais, pour moi, c'est un peu la définition du bonheur, ça.
On dirait vraiment la nuit, là.
Ah bah oui. Et encore, t'as une bougie.
C'est pour ça qu'on s'éclaire avec les bougies. Alors, on couche tout habillé, comme tu le vois, avec tous nos pulls, nos pantalons, nos chaussettes, les bonnets, pour certaines. Alors, Bernadette, elle s'est fabriquée une tête de lit avec une planche en bois. Comme ça, elle peut s'adosser, s'asseoir et donc trier son courrier.
C'est tous les papiers que l'on reçoit, que j'ai reçus depuis que j'ai quitté Paris et que je n'ai pas traité. En fait, j'ai quitté Paris une première fois juste après la crise. Le jour où je n'en pouvais plus avec les ondes électromagnétiques, c'est le jour où j'ai fait le lien avec les ondes électromagnétiques. Par exemple, les abonnements au téléphone fixe que je suis toujours en train de payer et que je n'ai pas eu le temps de résilier. Téléphone mobile également, mon portable. Jusqu'à ce moment-là, je souffrais en différents endroits du corps, sans qu'aucun médecin puisse me signaler ce qui se passait. Je n'ai pas eu le temps de les traiter parce que depuis que je suis là, il faut faire face aux problèmes qui se posent tous les jours. Je suis partie en Corrèze, dans la maison de mon enfance, une maison qui autrefois était totalement isolée du monde. Et cette maison aujourd'hui est entourée de maisons qui sont super équipées. Là, il est même écrit important. Je ne sais plus ce qu'il y a dans ce paquet important. Alors j'ai planté une tente très loin. Et même au plus loin, il y avait encore les fils électriques pour empêcher les animaux d'aller manger à tel ou tel endroit. Donc j'ai dû aller très loin. Et là, je ne pouvais pas y rester. Parce que la tente, elle est dans un matériau qui empêche de se décharger des ondes. Le polyuréthane ou autre ne permet pas la décharge que l'on a en posant les pieds sur l'herbe, ou en attrapant un arbre, ou en prenant un bain.
Tu es venue pour 10 jours.
Et je suis venue ici, oui, comme tu dis, Anne. Pour 10 jours. Pour 10 jours. Et je n'ai pas pu repartir.
Voici la grande rue, qui est la seule rue du hameau. Avec les dernières personnes qui sont en train de préparer leur maison avant de tout fermer.
Pour un électrosensible qui s'en va de chez lui, il quitte la dernière protection qu'il a autour de lui et il sait très bien qu'il va vers un néant absolu. C'est une fuite, c'est aller au fond des bois, aller dans des grottes. C'est bien sûr que ça effraie et qu'on essaie de rester. On essaie de rester pour l'autre aussi. Pour les dernières personnes qui comptent pour vous. Parce que, grosso modo, quand tu pars pour toujours. Hein, et tu ne sais pas où tu vas aller. Donc, quand tu es un nanti comme moi, bah, tu as eu la chance d'avoir un camion avant. Donc, bah, moi, je vis dans un camping-car et je trouve des endroits comme ce fond de vallée où tu peux t'y sentir bien. Quand ma compagne revient aux vacances, j'essaie de trouver... une maison pour pas être dans un camion, parce que vivre dans un camion en plein hiver, c'est quand même un peu rude, surtout à deux. Ça ne nous empêche pas de se voir, ça ne nous empêche pas de vivre encore, d'être encore un couple. Même si on a un couple en pointillé. D'accepter le nomadisme, ça permet de ne pas être effrayé par l'extérieur, par le fait de ne pas avoir de repères, le fait de ne plus avoir de chez soi, le fait de... de ne pas savoir où tu vas être ce soir. Tu ne sais pas si ça sera dans un duvet pelotonné dans une infractuosité de rocher ou si ce sera dans une petite maisonnette. Hein. J'ai voyagé 10 ans. Bon, puis après, il y a deux solutions. J'avais 30 ans où j'arrêtais, où je continuais. Mais après, c'est dur de se réinsérer dans la société. Donc au bout de 10 ans, je me suis dit, allez, j'en ai profité. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il faut que je me réinsère dans la société. Il fallait que je fasse une pause aussi. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement, c'était une super expérience, ça m'a beaucoup plu.
Je pense que si j'étais pas tombé dans l'électro-hypersensibilité, je serais encore enseignant, il y a des chances. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir tourné la page.
Les électrosensibles errent pour chercher une zone blanche. Malheureusement, des zones blanches habitables, on peut dire que jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Souvent, elles sont grises, mais elles ne sont pas blanches. Blanche, ça veut dire zone sans onde électromagnétique, mais aucune, sans onde artificielle.
Bon, c'est pas un village qui est réputé pour être très chaud. Et donc, le gîte, il est là.
C'est dur à chauffer les premiers jours parce que c'est des murs en pierre, on n'a pas isolé.
Ouais.
Puis on ne tient pas isolé non plus parce que de toute façon ça cachait des maisons.
Mmh.
Mais une fois que les pierres sont un peu chaudes, tient, ça fait l'inertie. Donc c'est ça qui est bien. Même si le poêle il crève, il fait pas froid dans la maison. Donc,
c'est commune d'entraide ici de toute façon.
C'est une commune de Val-Jouffray.
La
chapelle en Val-Jouffray qui est en fait juste avant de prendre la petite route pour monter ici. C'est ici. Et la mairie est un peu plus loin, par contre, en partant sur le désert.
Je pense qu'en demandant à la mairie s'ils veulent bien éteindre, si jamais...
Vous leur posez la question. À la limite, vous pouvez aller voir le maire pour lui dire que vous êtes là. Comme ça, il sera au courant.
Ouais.
Voilà.
Ça fait 20-25 mètres carrés. Et t'as 16 lits. Et en dessous, il y a la même pièce qui doit faire à peu près pareil, 20 mètres carrés. Avec une cheminée. Bon, c'est propre, c'est nickel. Ça sent la couverture de colo humide. Par contre, comme il n'y a pas d'eau, t'as pas de douche, t'as même pas le courant. Quoi. Il faut aller à l'extérieur, chercher de l'eau à une fontaine, la faire chauffer. Mais sinon, c'est un vrai palais. À chacun sa définition du palais, je te l'accorde. Non, c'est bien. Avec ça, tu peux voir s'il y a du DECT qui est resté allumé dans les maisons. DECT, ça a une portée de quelques dizaines de mètres autour de la maison. A priori, s'ils en avaient un, ça, je pense qu'il y aurait... D'ici, tu le sens. Tiré. Donc il y a une grande chance que Claude soit ton filaire. Bon, les maisons ici ont quand même des murs qui sont assez épais aussi. Donc ça permet de ne pas être trop embêté par les voisins. Dans l'une des maisons, là, t'as un DCT. Bon, là, on est à 10-11 millivolts par mètre, donc c'est pas énorme. Mais si on s'en rapproche, on peut monter jusqu'à 100. Ponctuellement, il reste une heure, c'est pas dramatique. Si tu l'as 24 heures sur 24, ça te fait pas. Et c'est à cette fontaine-là que t'as l'eau. Elle coule tout le temps.
Il y a une période d'hiver où il ne vient vraiment plus au village.
Ouais.
Moi, je me rappelle, je suis monté une fois, il faisait coucou juste à la fenêtre la petite fenêtre de droite. Là. Mais coucou, hein.
Ouais.
C'est au moment où il devait passer, vous voyez, le gargal.
Ouais.
Ben, le col à gauche, il devait juste passer là. Donc il a fait coucou. Et
ouais. Donc il est vraiment rasant sur...
Il est rasant. Là, d'ailleurs, on l'aurait s'il n'y avait pas le pédaval.
Ouais.
Mais là, il est derrière le pédaval, et il va sortir à peu près dans le ciel bleu à droite en descendant. Là.
Donc là, ça dégèle pas pendant un certain nombre de mois, ça dégèle
pas du tout.
Dégèle
pas, hein. Ouais. À part si on a un hiver doux, hein, ça peut aussi. Tout comme on peut avoir un hiver avec de la neige, comme un hiver sans neige. Hein.
Mm. Et là, donc cet hiver, va peut-être, il y a une maison qui va peut-être rester ouverte.
Bah ouais, c'est mon beau-frère, mais je pense qu'il a pété les plombs, quoi.
Pourquoi?
Parce que c'est pas normal. Enfin bon, quoi, du bon. L'an dernier, il y avait un gars de Montagne pour tous qui avait
ouais,
quel âge?
Je sais.
Bon, il avait 25 ans. Bon, lui, on peut comprendre. Un jeune, mais bon, pas un gars de 50 ans, 55 ans. Faire quoi là? Il n'y a plus de soleil.
Il est tout seul?
Non, il n'a que sa femme. Il n'y a plus de soleil. Mmh.
Ici, ce ne sont que des maisons
secondaires
pour les quelques mois l'été. Et puis...
Si, nous, on est venu souvent réveillonner l'hiver.
Ouais.
Le bon réveillonner, ce qui veut dire vous montez la veille, vous faites chauffer tout, vous réveillonnez, puis un jour ou deux après, vous redescendez. Mmh. Mais passer l'hiver, il faut déjà avoir une case. Hein.
D'accord.
C'est à mon avis. Hein.
Bon. Je ne sais pas. Et ce village-là, il a été rasé par une avalanche. Il était au même endroit où il était
Pareil. C'est une avalanche qui venait de là-haut. C'est le souffle.
Ah oui, quand même. C'est pas tout près. Hein.
Le dernier qui avait vécu ici, c'était tout de suite après la guerre, c'était Berriel. Il est resté 4-5 ans, mais bon, lui, c'était un ingénieur agronome. Et il est venu tout de suite après la libération. Donc je pense qu'il est plus venu se planquer que faire autre chose.
D'accord.
Mais bon, il avait 25 ans, il était jeune, ça pouvait encore un peu se comprendre. Mais pas 55 ans. C'est quand même un peu du temps dans la Sardaigne. Hein. Et la montagne t'a tenu. Hein. Parce que l'église est morte, on avait 40 jours. Il connaît la région.
Retrouver sa liberté, c'est quand même un sacré truc. On est dans un monde, moi j'ai passé 20 ans à travailler avec des contraintes horaires, multiples contraintes, on ne se rend même pas compte de toutes les contraintes que ça induit. Et j'avais un travail où qui était quand même assez agréable, avec beaucoup de temps libre. Mais tout est contrainte. Du matin, on se lève, tout est codé, il y a des limites à tout, il y a une pendule qui tourne inexorablement, surtout dans l'enseignement où j'étais, il y a la sonnerie toutes les 55 minutes. Enfin, c'est un monde qui est découpé. Bon, je le vivais bien, hein, mais avec du recul... Comment on peut couper en tranches 24 heures de sa journée, ça m'apparaît monstrueux. Aujourd'hui, j'ai plus de montre, ce que je dis. Voilà, j'ai simplement le temps de vivre. Et vivre sans heures, c'est un vrai luxe. Simplement, quand le soleil se couche, il est temps de rentrer parce que ça va induire une baisse de température. Voilà à peu près les limites de ma journée. Entre l'heure du réveil et l'heure du retour.
Tu me diras l'heure, mon patient.
Oui.
Finalement, ce fond de grotte, c'est un peu mon refuge, mon point de repère, puisque je sais que là, ça ira mieux. Ma zone de secours.
Et je vis des choses, un peu rudes, mais aussi je vis des choses qui sont très riches. Voilà. Et puis, on est amené aussi à s'alléger, quoi. C'est-à-dire que on est obligé d'aller à l'essentiel et à se détacher de pas mal de choses, notamment sur le plan matériel. peux dire que ma vie est très simple. Par contre, j'étais obligée de me détacher de ma fille, la plus jeune, qui a 17 ans. Et ça, c'est pas facile. Bon, ça l'a peut-être aidé à grandir, mais je peux pas remplir mon rôle de mère comme je le voudrais. Et ça, c'est quand même un peu une difficulté, voilà, un mal-être. J'ai l'impression de louper des choses dans son évolution à elle, quoi. Mais comme je dis, je n'ai pas le choix. Voilà. J'ai l'impression que c'est la vie qui me mène. Et pas moi qui mène ma vie. Il y a comme un renversement des choses.
On a descendu de la grotte le maximum de nos provisions, les céréales et les légumes. Et maintenant, avec ça, je prépare pour le repas de ce soir, pour partager avec Henri, tu vois. Et j'attends Anne. Normalement, elle devrait être là depuis 5h30, mais je crois qu'elle ne peut pas rentrer parce qu'elle voit l'électricité.
On est un peu en pourparler, c'est-à-dire qu'on souhaiterait que ça puisse durer, parce que moi, je pense que la zone blanche, elle n'est pas pour demain. C'est-à-dire qu'il est assez probable que ce lieu... devienne un lieu où des électrosensibles puissent vivre, c'est-à-dire que, où on aménage vraiment. Donc là, le maire nous a invités à réfléchir d'une certaine manière sur la grotte. Lui, en tant que maire, il aimerait se dégager de cette responsabilité. Ça veut dire qu'il aimerait se séparer, que la commune se sépare de cette grotte pour qu'effectivement on puisse faire des vrais aménagements. On est en train d'envisager de couper l'électricité d'une partie de la maison parce qu'on se rend compte que pour elle, le fait qu'il y ait de l'électricité rend impossible d'être dans la maison pour deux d'entre elles. Et il se trouve que nous, grâce à elle, on est dans une expérimentation, c'est-à-dire qu'on réexplore tout ce que ça nous donne, par exemple d'avoir repris la bougie, la qualité de la lumière de la bougie par rapport à la lumière électrique. C'est-à-dire qu'on est dans des questions où à la fois on ne refuse pas, mais on explore le potentiel qui s'ouvre, c'est-à-dire effectivement vivre plus simplement et puis, je crois, aller vers ce qui nous semble être la beauté, c'est-à-dire le ralentissement du temps qui rend possible de sentir, d'écouter, de ressentir.
C'est mieux.
Allez, on va vers la lettre. Waouh! Oh, là, c'est assez le gros bourdon.
Donc elle est bonne ta pleurette.
Ça doit être un bon pays, l'endroit où on fait un vin comme ça quand même.
Oh là là, il est sucré.
Je suis sur la route depuis un an. Les trois quarts des lieux où je suis allé, j'y reste pas parce que trouver un hospitalier ou pas bon ou un endroit habitable, sans micro-ondes artificielles, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc il faudra qu'on le crée. Et c'est quelque chose qu'il faudra créer en éteignant des sources de pollution électromagnétique. Mais c'est assez simple à faire. On appuie sur un bouton. Autant vous prenez des déchets radioactifs, une demi-vie d'un déchet radioactif, ça va être quelques millions d'années. Et donc là, vous dites, on est mal. Autant avec la pollution électromagnétique, il s'agit simplement d'avoir la volonté d'appuyer sur un bouton pour qu'elle n'existe plus. Et cette volonté-là, on l'a demandé à différents hommes politiques de Drôme notamment, ayez la volonté de nous créer un petit endroit où on puisse vivre. Bon, pour au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique en Drôme comme ailleurs en France qui a cette volonté. Personne ne veut appuyer sur le petit bouton qui fera que des gens comme nous, on pourra vivre en sortant de nos cavernes, de nos grottes, de nos bois, et se dire, ah, enfin du ciel bleu, une petite maison en pierre, un espace où on redevient normal, où, où on peut vivre normalement, de nouveau avoir comment dire, un travail, une activité sociale, des voisins, traverser la rue, tout bêtement, pouvoir aller chez son voisin sans lui avoir téléphoné avant, en lui disant « t'as tout éteint, et ton voisin, tu crois qu'il a éteint ?» Non, le voisin, il n'a pas éteint. Donc, tu sais que si tu vas chez quelqu'un, tu vas t'y faire griller. Et bien là, dans ce petit endroit-là, on pourra faire revivre normalement comme on vivait avant.
Arte.
En attendant, ben, y a la montagne.
Radio.
C'est pas pire.
Point. Comme.